Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici le troisième épisode de mon cours pour l'année 2021. Vous vous souviendrez que la fois passée, nous avions parlé de ce que j'avais appelé la ruée vers l'Occident. Et j'avais consacré une bonne partie de cette leçon à discuter des clauses du format, du contenu, du Hatti Humayun, c'est-à-dire du décret impérial de 1856, du 18 février 1856, celui qui avait précédé la signature du traité de Paris qui mettait fin à la guerre de Crimée. En fait, j'avais dépassé un peu mon temps, comme d'habitude. Chaque fois que je m'occupe de textes, j'ai la passion des textes et j'aime me pencher un peu sur la manière dont un texte peut être lu et interprété pour donner une idée de la situation politique et des mentalités, notamment de la culture politique de l'époque. J'avais donc longuement parlé des 38 des 38 articles de ce décret. Et j'avais souligné en particulier certains aspects, j'avais surligné en rouge ce qui me paraissait important à retenir de ce texte quand même assez fourni. Et vous vous souviendrez peut-être que la plupart des passages que j'avais surlignés avaient trait à la question de l'égalité des non-musulmans, des sujets du sultan non-musulmans, la manière dont ils étaient intégrés dans le système pour compléter en quelque sorte les clauses et les intentions du décret des Tanzimat, celui qui avait été promulgué le 3 novembre 1839 et que nous avions longuement commenté l'année dernière. Je vais donc reprendre avec ce décret, je vais essayer de me pencher sur une vision de synthèse de ce décret, le comparer avec celui de 1839, autant dans la rhétorique que dans le contenu, pour essayer de déterminer quels étaient les facteurs dominants qui avaient mené à la promulgation, à la proclamation de cet édit, de ce décret en 1856. Et vous en douterez, il y a derrière 1856 une bonne part de volonté occidentale d'obliger les Ottomans à se conformer à un certain nombre de règles concernant justement la légalité, l'inclusion des sujets non musulmans, notamment chrétiens, dans la nouvelle définition que l'on voulait donner de l'Empire ottoman. Si l'on reprend un peu une sorte de tableau synoptique de ce décret, vous verrez, et j'utilise encore une fois la même méthode de surligner en rouge, de donner en rouge les parties qui me paraissent particulièrement importantes, si l'on liste en quelque sorte les principaux thèmes qui sont abordés dans ce décret, on verra que, et encore une fois c'est ce que j'ai surligné en rouge, pour la plupart il concerne justement la question du statut et de l'égalité des non-musulmans. Le préambule, il est intéressant parce qu'il s'inscrit dans une logique, dans un état d'esprit qui est bien de son époque, puisque on y parle de prospérité, de bonheur, on y parle de progrès en quelque sorte, on y parle de ce que l'on voudrait voir se réaliser dans l'Empire ottoman, et donc c'est un peu une attitude paternaliste du sultan qui s'exprime, qui s'adresse à son grand vizir et qui lui dit combien d'affection il a pour ses sujets et comment il a l'intention, par ce décret, d'améliorer leur sort et d'améliorer les conditions qui ont déjà été établies par les Tanzimat. Il y a donc le thème de la continuité, même si, encore une fois, vous vous souviendrez, le préambule des Tanzimat n'avait rien à voir avec celui du décret de 1856. Le préambule des Tanzimat était très fortement ancré dans la tradition islamique, dans la rhétorique islamique traditionnelle de l'Empire, et par conséquent, il disait en gros que, en raison d'une négligence, du non-respect des clauses de la charia, des conditions imposées par la charia pendant le siècle et demi passé, l'Empire s'était retrouvé dans une situation désastreuse et que par conséquent il fallait rétablir la charia ou les conditions imposées par la charia afin de redresser, de régénérer, de ressusciter l'Empire. Évidemment, vous vous souviendrez aussi que le contenu du décret n'avait pas grand-chose à voir avec la charia, au contraire, c'était des innovations. D'ailleurs, vers la conclusion du décret de 1839, le sultan disait bien que toutes ces institutions, toutes ces lois étaient tout à fait nouvelles et que par conséquent, elles avaient pour but de transformer complètement le système. Il n'en reste pas moins que la rhétorique elle-même était, elle, très fidèle à un discours traditionnel, un discours qui voyait dans la charia les conditions idéales du maintien de l'ordre et de la justice dans le système ottoman. Le préambule de 1856 ne dit rien de tout cela. Il n'y est pas question de charia, il y est question de termes qui sont désormais acceptés et qui sont empruntés à la rhétorique occidentale, celui du bonheur du peuple et celui de la prospérité de l'Empire et par conséquent de ses sujets. Le premier article, je suis donc ce tableau synoptique du contenu du décret de 1856, le premier article confirme les Tanzimat. Donc on part du principe qu'il s'agit non pas d'un chamboulement complet du système, mais d'une amélioration, c'est-à-dire qu'on conserve les principes qui régissent le décret des Tanzimat, mais on y ajoute de nouvelles clauses, de nouvelles conditions, de nouveaux principes qui vont non seulement confirmer les Tanzimat, mais les amener à un degré, et vous vous souviendrez du texte qui disait, un degré compatible avec celui des nations civilisées dont l'Empire ottoman faisait désormais partie, du moins dans l'esprit de ses administrateurs. C'était donc un texte, c'était un préambule et un premier article qui était du cru, c'est-à-dire qui avait été composé par les Ottomans eux-mêmes afin d'établir un lien entre les deux firmants, entre les deux décrets. Mais à partir de l'article 2, tous les articles pratiquement n'ont à voir qu'avec la l'égalité et le statut des non-musulmans. Alors que, encore une fois, vous vous souviendrez, pour le décret des Tanzimat, c'était un point qui était amené vers la fin du document. C'était une clause qui disait, en gros, que les améliorations des Tanzimat seraient appliquées de manière égale à tous les sujets de l'Empire, indépendamment de leur nation. Nation dans le sens très ottoman du terme, c'est-à-dire leur appartenance à un groupe défini par la religion, les Grecs, les Arméniens, les Juifs, surtout, puisqu'on parle là des trois nations les plus importantes. Tandis que là, en 1856, tout d'emblée, à partir du second article, on ne parle que de ça. Immunités et privilèges des non-musulmans, Les articles 2 à 7 concernent l'organisation, en quelque sorte, de ce nouvel équilibre entre les groupes de sujets qui constituent la nation ottomane. Ensuite, 8 et 9, les deux articles que j'avais particulièrement souligné et qui se rapportait au traitement égalitaire des sujets en bannissant l'usage de toute expression qui était jugée insultante à l'égard des non-musulmans. Je vous avais donné l'exemple de Giaouj, une déformation de kafir, infidèle, un terme qui était utilisé couramment pour parler des non-musulmans, un terme qui était sans cesse dans la bouche des musulmans. Et j'avais même ajouté qu'encore aujourd'hui, il est tout à fait possible d'entendre des citoyens turcs utiliser ce terme pour parler d'étrangers ou de non-musulmans vivant en Turquie, des concitoyens non-musulmans. Ce qui prouve en quelque sorte que les bonnes intentions du décret de 1856 sont un peu restées en l'air et nous y reviendrons. Donc 8 et 9, égalité des sujets du sultan dans la rhétorique même, dans la terminologie même qui leur était appliquée. 10 à 12, la liberté du culte, tout le monde est libre de pratiquer son culte sans aucune entrave, sans aucun obstacle. 13 à 15, l'égalité du recrutement et de l'instruction, c'est-à-dire le fait de reconnaître que les sujets non musulmans seront désormais admis dans des institutions qui jusque-là étaient définies par l'exclusivité appliquée aux musulmans. C'est vrai en particulier du recrutement dans l'armée, et ça nous y reviendrons dans un moment, mais le recrutement dans la fonction publique, c'est-à-dire le fait de devenir fonctionnaire d'un État qui est en train de se bureaucratiser, et l'instruction, c'est-à-dire le droit à l'instruction, à l'éducation dans les écoles publiques, tout en, et ça je l'avais déjà souligné, tout en laissant aux communautés non musulmanes le droit d'établir leurs propres institutions d'enseignement, ce qui, en quelque sorte, confirmait cet équilibre un peu bancal entre un désir d'intégration, c'est-à-dire traiter tous les sujets de la même manière, et un désir de, je ne dirais pas de discrimination, puisqu'elle est en quelque sorte positive, puisqu'elle elle donne aux communautés le droit de s'auto-gérer, mais la confessionnalisation du système, c'est-à-dire la possibilité pour les communautés non musulmanes de se constituer en millettes, c'est-à-dire en nations autonomes, gérant la plupart des fonctions que l'on attend de l'État, donc des petits États parallèles. C'est un problème puisque, encore une fois, c'est quelque chose qui peut fragmenter, fractionner l'union nationale, si l'on peut parler d'union nationale dans le cas de l'Empire ottoman, en facilitant la compartimentation des communautés selon leur désir de s'organiser et de recruter et d'éduquer leurs propres ouailles au sein de cette communauté. Les articles 16 à 23, les tribunaux mixtes et la réforme pénitentiaire, une partie, la réforme pénitentiaire est quelque chose qui est couché dans le texte en des termes qui sont entre guillemets universels, donc qui ont un rapport avec le traitement que les sujets musulmans recevront en prison aussi. Mais l'idée des tribunaux mixtes, c'est-à-dire la possibilité à des juges non musulmans de siéger lors de procès qui concernent des sujets non musulmans, c'est une nouveauté et c'est quelque chose qui va, encore une fois, dans la direction de reconnaître les droits de ces communautés à être traitées sur un pied d'égalité. Pareil pour l'impôt, la conscription et les droits de propriété qui sont désormais égaux pour tous les sujets. Toutes sortes d'inégalités qui auraient pu exister avant cela concernant l'imposition ou la conscription des sujets doit disparaître. Pour l'imposition, bien sûr, il n'y a pas de mystère. Le sujet qui brûle, le sujet qui fâche, c'est celui de la capitation, c'est-à-dire de cet impôt arbitraire qui est dans la logique même de la charia, qui veut que les non-musulmans dans un État dirigé par un souverain musulman paye ce qu'on appelle la capitation, le haraç en turc ou la jizya, c'est-à-dire un impôt extraordinaire qui est imposé sur les sujets adultes et mâles de la population non musulmane et qui est en quelque sorte une reconnaissance de la protection que leur donne le souverain. Donc c'est une sorte de paiement en retour de cette protection, mais c'est aussi bien sûr un symbole de soumission, un symbole qui souligne à quel point ces gens sont inférieurs aux autres puisqu'ils doivent payer pour être admis, pour être acceptés, pour être tolérés au sein de l'Empire. Et la conscription, encore une fois, c'était un privilège des non-musulmans que de participer à l'effort guerrier, puisque les autres ne pouvaient pas, on n'avait pas confiance, si vous voulez, en la fidélité des non-musulmans. Il y avait eu quelques tentatives dans les années 1840 d'intégrer des appelés non-musulmans dans certaines divisions de l'armée et de la marine, avec très peu de succès. Et par conséquent, on voit là une sorte d'illustration du principe de l'équilibre entre les droits et les devoirs. Donc si on obtient des droits d'égalité, les devoirs devraient être aussi à égalité. Et la conscription est un devoir de tous les sujets. Seulement, pour l'impôt et pour la conscription, on va voir se former une sorte de consensus autour d'un contournement de la loi, puisque la conscription, même si elle est ouverte aux non-musulmans, va de fait rester une prérogative musulmane, et les non-musulmans, d'ailleurs, ils ne demandent pas mieux, ne vont pas être inclus dans l'armée. Et par conséquent, on va leur donner la possibilité de racheter leur service militaire. Et ce rachat, en quelque sorte, c'est un remplacement pour la capitation qui avait été perdue avec l'égalité des impôts. Donc on perd sur les impôts ce que l'on gagne dans la conscription et rien ne change, si vous voulez. Les mesures d'assainissement financier, alors ça c'est quelque chose de très général, bon, ça concerne la gestion financière de l'Empire. L'établissement d'un grand conseil et la possibilité aux non-musulmans d'être représentés dans ce grand conseil, c'est encore une fois une ouverture vers l'inclusion. Et enfin, vous vous souviendrez que les derniers articles, 37 et 38, concernaient les mesures économiques et pratiques, le fait de fonder des institutions qui seraient propices au développement du commerce et de l'industrie, d'aller chercher en Occident les technologies, la science, le savoir qui étaient nécessaires à atteindre cet objectif de progrès. Là aussi, c'est quelque chose qui est universel et qui concerne tous les sujets du sultan. Donc, je crois que la différence de base entre ce texte et celui qui l'a précédé, celui de 1839, c'est bien cela. C'est le fait qu'il y a un discours qui est résolument axé sur l'occidentalisation et la modernité en des termes qui sont directement empruntés à l'Europe, à l'Occident, et que, en gros, l'intention première de ce décret des réformes est de fournir aux sujets non musulmans du sultan l'égalité devant les droits, l'égalité devant les opportunités qui sont offertes aux sujets sous ce parapluie de la modernité, de la prospérité. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est quelque chose qui, bien sûr, a été imposé aux Ottomans par les grandes puissances. Et c'est ce qui explique que la promulgation de ce décret ait eu lieu à peine une semaine avant, exactement une semaine avant, la réunion des plénipotentiaires à Paris pour discuter des conditions de la paix. Donc, il ne s'agit pas pour les Ottomans de participer librement à cette conclusion de la guerre à laquelle ils avaient participé, mais c'est l'imposition de certaines conditions, des conditions qui leur sont imposées afin de mériter l'inclusion dans le traité de paix et l'inclusion par conséquent dans la grande famille, le concert de l'Europe, la grande famille des nations civilisées. Par conséquent, il faut chercher dans la diplomatie des années précédentes les premières traces de cette imposition, puisque évidemment ce n'est pas quelque chose qui se décide du jour au lendemain. Nous avons bien sûr, et pour cela je vous renvoie à l'ouvrage d'Aileen Kochounian que j'avais cité la dernière fois, Negotiating the Ottoman Constitution, où elle consacre quelques pages à l'épisode de la préparation du décret des réformes à Constantinople même, à Istanbul même, entre les principaux dirigeants ottomans et les diplomates occidentaux, français et britanniques surtout, en poste dans la capitale de l'Empire. Ils ont passé le mois de janvier et quelques jours en février à préparer ce texte, à le peaufiner, et par conséquent, nous avons en quelque sorte la juxtaposition de deux textes, ou plutôt un texte de base qui est le texte qui a été décidé par les diplomates à Constantinople en janvier-février 1856, auquel ont été ajoutés un certain nombre d'articles qui sont de la plume des dirigeants ottomans. C'est notamment le cas du préambule qui est entièrement ottoman, et on le comprend puisqu'il y a une tentative de justifier en quelque sorte la logique de ce décret en se fondant sur une tradition historique. Vous vous souviendrez que le texte dit « Mes ancêtres, depuis Mehmet II, ont toujours essayé d'améliorer le sort des non-musulmans et les protéger, etc. » Donc on essaye d'inscrire ces clauses, ces nouveaux articles, dans une image de continuité. C'est quelque chose qui découle en quelque sorte d'une volonté qui était déjà fortement ancrée dans la tradition ottomane. Bien sûr, c'est de la rhétorique, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la vérité, puisque la vérité est que la tradition ottomane, tout en protégeant les sujets non ottomans, les protégeait essentiellement avec la notion d'inégalité, c'est-à-dire qu'ils étaient protégés en tant que tributaires, en tant que sujets soumis à l'autorité du sultan et par conséquent inférieur en tout point aux musulmans. Donc là, il y a bien sûr une sorte de manipulation du texte, mais on comprend pourquoi cela a été fait. L'objectif est quand même de donner une couleur locale, si je puis dire, une base locale, traditionnelle, à un texte qui quand même sent le soufre occidental. Donc, c'est un peu en manipulant ce texte, en y ajoutant ces clauses, notamment la confirmation d'Eternzimat et la dernière clause, les deux dernières clauses, celle des réformes monétaires, économiques, industrielles, etc. Celle-là aussi a été rajoutée par les Ottomans, ce qui prouve bien que les Ottomans ne voulaient pas se contenter de simplement un décret qui se limitait à reconnaître l'égalité des sujets non musulmans de l'Empire. Alors, si l'on fouille un peu dans la correspondance diplomatique et dans la documentation diplomatique des premières années de la guerre de Crimée, on tombe sur un protocole qui est signé à Vienne le 9 avril 1854, qui est signé par les plénipotentiaires de France, de Grande-Bretagne, d'Autriche et de Prusse, c'est-à-dire la France et la Grande-Bretagne, les deux puissances qui vont s'engager dans la guerre de Crimée et qui se sont déjà d'ailleurs engagées dans la guerre de Crimée et qui vont combattre la Russie pour la défense de l'intégrité des territoires ottomans, et les deux autres puissances qui sont un peu entre deux eaux, l'Autriche qui est coincée entre la pression russe et son désir de participer à un remaniement de la politique occidentale, européenne, et la Prusse qui n'est pas encore une grande puissance et qui par conséquent essaye d'accéder à un statut, à une reconnaissance de son statut de puissance en participant à ces pourparlers diplomatiques. Et il y a dans ce protocole ce qu'on appelle le quatrième point, qui reviendra sans cesse lors des négociations et des conversations en janvier 56 pour la préparation du décret par les diplomates occidentaux. Et ce quatrième point, voilà ce qu'il dit. En conséquence, les sous-signés ont, à ce moment solennel, déclarer que leur gouvernement reste uni dans le double but de maintenir l'intégrité territoriale de l'Empire ottoman et de consolider dans un intérêt si conforme aux sentiments du sultan et par tous les moyens compatibles avec son indépendance et sa souveraineté, les droits civils et religieux des chrétiens sujets de la Porte. On voit bien que en 54, donc en avril 54, alors que la guerre de Crimée vient de s'internationaliser, les grandes puissances sont déjà en train de réfléchir à ce que l'on pourra imposer à l'Empire ottoman en termes de réformes une fois la guerre conclue, une fois la guerre terminée. Et on voit tout de suite qu'il y a en gros un marchandage, un équilibrage entre ce que les Ottomans désirent le plus, l'intégrité territoriale de leur empire, le fait d'être garanti contre l'appétit expansionniste de la Russie, puisque pour les Ottomans à cette époque-là, il n'y a plus qu'un danger, c'est la Russie. L'Égypte a été plus ou moins matée, l'Égypte a été contentée et satisfaite dans son autogestion. Donc le seul danger concret que les Ottomans ressentent à cette époque-là, c'est bien sûr la Russie, ce monstre à leur porte, ce voisin extrêmement puissant qui risque de les envahir autant par les Balkans et de mettre en danger la capitale de l'Empire, puisque leur objectif est de pouvoir se diriger vers les mers chaudes, etc. Et puis bien sûr le Caucase, c'est-à-dire la frontière orientale avec la Russie. Là aussi, un danger d'invasion, ou du moins un risque d'invasion de la part des Russes. Donc pour les Ottomans, ce qui compte avant toute chose, c'est de se prémunir contre le danger russe. Et pour cela, ils imaginent, non sans raison, que la meilleure garantie qu'ils puissent obtenir, c'est une sorte de protection des grandes puissances qui sont beaucoup plus distantes. Il y a toujours un avantage à être protégé par des acteurs puissants qui ne sont pas vos voisins immédiats et qui, par conséquent, ont peut-être un peu moins d'appétit territorial que les autres, et par conséquent d'obtenir de ces grandes puissances une sorte de garantie de la survie de l'Empire. Évidemment, le danger français, le danger britannique est là. Les Ottomans ont perdu l'Algérie à la France en 1830, donc ils ne sont pas dupes, ils savent bien qu'il y a un appétit colonial qui est différent de l'appétit russe, un appétit colonial qui risque de grignoter les territoires un peu plus éloignés de l'Empire, mais c'est un risque à prendre. Il faut essayer d'obtenir une protection de ces puissances face aux dangers russes. Et par conséquent, les diplomates, les hommes d'État britanniques et français se disent que la meilleure solution de ce problème, c'est de donner effectivement à l'Empire ottoman cette garantie de son intégrité territoriale, quelque chose que la guerre de Crimée, en quelque sorte, confirme, puisque c'est une guerre qui est menée afin d'empêcher l'avancée russe vers les territoires ottomans, mais en contrepartie d'obtenir ce dont ils rêvent depuis quelque temps, et notamment depuis les Tanzimat, la confirmation décisive des droits des populations non musulmanes de l'Empire. En fait, encore une fois, je pense qu'il faut le souligner, des populations chrétiennes de l'Empire ottoman. Chrétiennes, pourquoi ? Parce que, d'une part, les Russes ont des visées sur, justement, une ingérence dans les affaires de l'Empire ottoman, puisqu'ils ont une influence extrêmement forte sur la population orthodoxe, grecque-orthodoxe de l'Empire, et on se souviendra que c'est à cause de ces ambitions d'ingérence que la guerre s'était déclarée en 1853. Mais il faut aussi souligner que cette insistance sur les droits civils et religieux des chrétiens omet bien sûr une autre communauté non musulmane qui est peut-être pas aussi importante démographiquement, mais qui est quand même extrêmement importante, c'est la population juive. Et vous vous souviendrez qu'il y a eu une révision du texte du décret des réformes, de manière à inclure les juifs, même s'ils n'étaient pas toujours inclus de manière explicite en parlant de la population juive, en la nommant en tant que telle. Je crois qu'il n'y a qu'un passage qui parle du grand rabbinat, mais au-delà, on ne parle jamais vraiment des juifs, mais il y a quand même eu l'ajout de la mention chrétiens et autres. Et les autres, ce sont essentiellement les juifs. Et vous vous souviendrez que c'est grâce à l'effort de certains acteurs économiques et politiques extrêmement puissants, tels les Rothschild, que cette révision du texte a été possible et que par conséquent, en 1856, le texte final a inclus, même si c'était de manière un peu elliptique, a inclus les juifs dans ces articles. Donc on voit bien que là, il y a un texte qui a déjà été concocté par la diplomatie occidentale. Déjà en 1954, il y avait une idée très claire que la guerre pourrait permettre aux grandes puissances de jouer ce jeu du quid pro quo, c'est-à-dire d'accorder à l'Empire ce dont il avait besoin, la protection de son intégrité territoriale, et qu'en contrepartie, parti, ce serait l'occasion rêvée pour le forcer à faire un pas en avant et de confirmer l'état d'Zimmat en reconnaissant, cette fois-ci de manière explicite et juridique, l'égalité des non-musulmans. Donc, encore une fois, c'est un texte occidental. Et je crois que j'essaye parfois de caricaturer un peu ces décrets. Si 1839 avait été en grande partie proclamé, promulgué pour l'Europe, c'est-à-dire pour s'attirer les sympathies et le soutien de l'Europe à une époque où la crise égyptienne, où le risque d'une invasion égyptienne était extrêmement réel, le décret de 1856 a été rédigé par l'Europe. Donc on est passé vraiment d'un registre qui était quand même beaucoup plus local, c'est les Ottomans essayant de modifier leur système et d'y apporter des modifications de manière à s'attirer les sympathies de l'Occident, et on est passé 20 ans plus tard à une situation où ce ne sont plus les Ottomans qui décident du contenu d'un décret, mais c'est l'Occident qui leur impose une liste des choses à améliorer, et on laisse aux Ottomans le soin de peaufiner un peu le texte et d'y ajouter quelques articles qui lui donneront un peu plus de couleur locale et par conséquent terniront un peu moins l'image du sultan, notamment aux yeux des musulmans. Car il ne faut pas se faire d'illusions, les articles décret de 1856 sont une gifle, une insulte à la population musulmane, puisque on leur dit de but en blanc que désormais il ne s'agit plus de traiter les diaouj de manière insolente et insultante, et que ils ont droit à toutes les prérogatives, tous les privilèges qui jusque-là étaient exclusivement réservés à cette classe de la population. Donc c'en est fini de cette notion d'inégalité qui, bien sûr, grâce à la justice, reste plus ou moins équitable, c'est-à-dire qu'on traite ces inférieurs, on les traite bien, mais on ne les accepte jamais comme des égaux. Et à ce sujet, il y a une anecdote que j'aime bien répéter, une anecdote que j'ai trouvée dans plusieurs publications de l'époque, mais c'est quelque chose qui circulait énormément, et on en parle encore aujourd'hui en Turquie pour donner une idée de l'état d'esprit des musulmans face à cette insulte, cette transformation soudaine du système qui renversait en quelque sorte l'ordre normal des choses en accordant aux non-musulmans l'égalité. La voici, alors je vous en donne une version, voici une petite anecdote qui montre comment les Turcs se civilisent. Alors déjà vous voyez le ton un peu paternaliste et extrêmement condescendant qui fait partie un peu de l'orientalisme de l'époque. Le gouverneur d'Erzurum en Anatolie orientale, Sarmik Pacha, qui possède à un haut degré la confiance des chrétiens, avait ordonné à un imam, de prêcher dans la mosquée à ses coreligionnaires de ne plus appeler diaouj, le terme que j'avais utilisé, donc infidèle, les chrétiens. Le mollah monte en chair et commence ainsi: « Selon le désir et la volonté de notre gouvernement, ne nommons pas davantage diaouj les diaouj. » C'était un homme d'esprit. C'est assez mal tourné, c'est un peu vieillot comme expression. En gros, ce qu'il dit, c'est « désormais, nous n'appellerons plus les chiens d'infidèles, chiens d'infidèles ». En turc, « gavura gavur danmijek ». Ce qui est quand même un mot d'esprit, je pense, puisque ça décrit bien les sentiments des musulmans, et plus que les sentiments, la manière dont ils vont tenter de gérer Cette insulte qui est faite à leur supériorité. En gros, ce que cela veut dire, c'est que, on sait tous que les Yahouls sont des Yahouls, que ces infidèles sont des infidèles, que ces chiens d'infidèles sont des chiens d'infidèles, qu'ils sont inférieurs à nous, mais on ne le dira plus. On ne le dira plus, donc on va cacher en quelque sorte ce qui ne nous empêchera pas de les traiter comme ils le méritent, c'est-à-dire en sujet inférieur à nous autres musulmans qui constituons la classe noble en quelque sorte de cet empire. Si ce terme, si cette anecdote me paraît intéressante, ce n'est pas simplement parce que c'est un bon mot, mais c'est aussi parce que je crois qu'elle décrit encore la situation en Turquie actuellement, la manière dont le Turc moyen, musulman bien sûr, puisque le Turc moyen considère les non-musulmans, c'est-à-dire que encore une fois, malgré la laïcité kémaliste, malgré la loi qui accorde l'égalité à tous les citoyens de la République de Turquie, en fait, tout le monde est plus ou moins certain de ce que la supériorité des musulmans vis-à-vis des non-musulmans est un fait qui ne peut être discuté et que par conséquent, on peut bien sûr avoir des lois qui sont extrêmement permissives, qui sont extrêmement ouvertes à l'inclusion, etc. Mais en gros, on reste sur ses positions, c'est-à-dire que l'on considère qu'un véritable Turc, un vrai Turc, celui qui mérite d'être vraiment appelé un Turc, un citoyen turc, c'est un musulman. Et que par conséquent, les autres, bien sûr, sur le papier, ce sont des citoyens turcs, la loi le reconnaît, mais il ne s'agit pas d'une réalité, et que par conséquent, ce qu'on peut montrer à leur égard, ça n'est pas le respect dû à un égal, mais tout au plus la tolérance que l'on peut exprimer à l'égard de quelqu'un que l'on considère inférieur à soi. Il y a un passage du testament politique de Ali Pacha. Ali Pacha est un de ses fils spirituels de Mustafa Reşit Pacha. Lui et Fouad Pacha sont les deux hommes d'État qui vont mener pendant les années 1850-60 la politique ottomane, notamment après la mort de Mustafa Reşit Pacha en 1858. Mais même avant sa mort, ils vont monter en puissance et ils vont s'opposer à ces visions, ils vont être encore plus occidentalisants que lui-même, et par conséquent, on va sentir une friction entre la vieille école, si vous voulez, représentée par Mustafa Reşit Pacha, et la nouvelle génération représentée par Fouad et Ali Pacha. Sachons qu'en 58, donc à peine quelques années après la proclamation du décret de 1856, du décret des réformes, Mustafa Reşit Pacha va rédiger un mémoire en turc qui critique fortement ce décret, le considérant comme étant incompatible avec l'honneur et la puissance de l'Empire ottoman, puisqu'il y voit quelque chose, il y voit une soumission à l'Occident qui lui paraît intolérable. On voit bien qu'il y a déjà en gestation une opposition à tant de soumission à la voix des puissances occidentales. Et il y a une certaine ironie à cela quand on sait que dans son propre mémoire, à l'intention de Palmerston en 1839, donc à peine quelques mois avant la proclamation du décret des Tanzimat, Mustafa Reşit Pacha lui-même avait utilisé des propos qui étaient, je les ai qualifiés dans un article de propos collaborationnistes, puisque en gros il disait, mais il faut absolument que les grandes puissances interviennent dans la politique ottomane lorsque c'est nécessaire, afin afin d'imposer de l'ordre et le respect des lois dans une situation qui est un peu trop chaotique. Donc un orientaliste, un auto-orientaliste avant l'âge, Mustapha Reshid Pacha n'avait pas de scrupule à appeler les puissances occidentales à la rescousse et à l'aide en 1839. Mais en 1856, en partie à cause de rivalités avec ses propres disciples, il va adopter une attitude beaucoup plus intransigeante et voir dans le décret de 1856 une soumission intolérable à aux puissances occidentales. Il est intéressant, je vous disais, que Ali Pacha avait rédigé en 1871 un testament politique, ça aussi c'est quelque chose qui entre dans le concept de l'occidentalisation. L'idée de rédiger un testament politique est quelque chose qui est très occidental, et ça prouve bien que Ali Pacha épousait des formes et des principes qui étaient directement inspirés de la politique occidentale. Et il y a un passage de son testament politique, donc rédigé en 71, il mourra quelques mois après, où il essaye d'expliquer un peu ce qui l'a poussé à promouvoir et à accepter texte du décret des réformes de 1856.
Permettez-moi de citer Ali Pacha dans ce testament politique, le citer directement. Il fallait créer, dit-il, entre l'Europe et nous, des liens plus puissants. Il était indispensable de confondre ses intérêts matériels, ceux de l'Europe, avec les nôtres. Dès lors, l'intégrité de l'Empire, au lieu d'être une fiction diplomatique, deviendrait une réalité. En intéressant directement et matériellement les États européens à la conservation et à la défense du pays, nous prenions autant d'associés pour lesquels la régénération de l'Empire et le développement de ses richesses devenaient une nécessité. Les faits nous ont donné raison. Plusieurs tentatives contre la Turquie ont échoué grâce à l'Europe. Les règlements nouveaux, les lois destinées à augmenter les revenus de l'État, alors même qu'elles contrariaient les intérêts de l'élément étranger, furent acceptées à l'unanimité, sans aucune difficulté, par les États européens. Alors on voit bien ce qui est dans la tête de Ali Pacha. Il justifie le choix qu'il a fait avec Fouad Pacha et avec les autres dirigeants de l'Empire de s'en remettre à la protection de l'Europe par le biais du décret des réformes. En gros, il répète ce que je vous ai dit un peu avant, c'est-à-dire que dans la situation périlleuse de l'Empire ottoman, il n'y avait guère d'autre solution possible que de garantir son intégrité territoriale en intéressant les puissances européennes, c'est-à-dire en les appelant à s'investir dans l'avenir de l'Empire ottoman. Une fois cet investissement réussi, les grandes puissances auraient tout intérêt à protéger cet empire, à le conserver, à le garder en vie, puisque leurs propres investissements, et je ne parle pas que d'investissements économiques, les obligeraient à en garantir la stabilité. Et bien sûr, cela explique le côté économique de la chose, le fait que les Ottomans aient rajouté deux articles à la fin de ce décret qui concernent ce désir d'appeler les capitaux occidentaux sous la forme de banques, de chemins de fer, de toutes sortes d'investissements productifs qui profiteraient d'un marché qui était encore inexploité. Et bien sûr, celui de cet appel au savoir, à la science, à la technologie, aux connaissances matérielles de l'Europe afin de réaliser ce projet de développement et de progrès. Donc, dans sa tête, c'est assez clair, il faut jouer le jeu jusqu'à la fin, nous ne pouvons plus survivre tout seuls, mais tant qu'à faire, nous n'avons qu'à nous laisser, entre guillemets, dominer par des grandes puissances, mais dominée de manière à ce que ces puissances ne voient aucun intérêt à la disparition de notre empire, et que par conséquent, elles s'investissent complètement dans l'avenir de cet empire. C'est un peu la logique qui va régir l'Empire ottoman pendant 20-30 ans à partir de cette année-là. Donc on accepte l'ingérence et une sorte de tutelle de l'Occident, et on espère en contrepartie en obtenir une reconnaissance, une protection qui va assurer la survie d'un empire qu'on sent en danger imminent. Un petit clin d'œil, si vous me le permettez, vers le passé, un passé récent, vers le passé des Tanzimat, vers le passé le nôtre, celui de l'année dernière, lorsque je parlais longuement du docteur Barachin, cet aventurier assez intéressant, mais qui à partir de 1841, s'était retrouvé à couteau tiré avec Mustafa Reşit Pacha, son protecteur, son patron, dans les premières années des Tanzimat, en 1838, 39, 40. Et vous vous souviendrez peut-être de cette affichette que Barachin avait publiée en 1841, à une époque où il jouait encore la carte de la survie de l'Empire, mais où il rattachait cette survie à une précondition, à une condition absolument essentielle, celle de l'union des éléments qui formaient la population de l'Empire. Les éléments sont définis, bien sûr, selon un doux mélange d'ethnicité et de religion. Donc il y a les Grecs, il y a les Juifs, il y a les Arméniens, il y a les musulmans, que l'on considère plutôt turcs, ils ne s'intéressent pas vraiment aux Arabes, mais ils considèrent que toute la population musulmane est représentée en quelque sorte par cette ethnie qui est au pouvoir, et bien sûr, tenant la hampe du drapeau et nous faisant face, l'Europe, un Européen qui participe à cette communion des nations locales. Et le drapeau, la bannière de ce nouveau régime en dit long sur l'objectif de Barachin. C'est un drapeau tricolore, donc il hérite en quelque sorte de la Révolution française, et chacune des bandes est occupée par un symbole religieux, le croissant, la croix et les tables de la loi, c'est-à-dire la chrétienté, l'islam et le judaïsme se réunissant pour reconstituer un empire en déliquescence, régénérer un empire. D'ailleurs, ce symbolisme donc est déjà très fort en lui-même, mais lorsqu'on voit la légende de cette image, on voit bien, je vais vous lire directement le texte, « L'union fait la force, dit-il, c'est un peu le principe des États-Unis, n'est-ce pas, et pluribus unum, l'union fait la force, régénération de l'Empire ottoman consacrée et assurée par l'adoption des principes suivants. Primo, égalité civile et politique des populations. » Et là, on voit bien que c'est ce que 1856 va amener, l'égalité civile et politique des populations. Deuxièmement, liberté religieuse complète. Là aussi, c'est exactement ce que 1856 va promettre aux populations non musulmanes de l'Empire. La séparation du spirituel et du temporel, même si 1856 ne parle pas de laïcité, il y a quand même un principe d'un retrait, en quelque sorte, de l'État de ce qui est religieux, en tolérant tous les cultes sur un pied d'égalité. Et quatrièmement, le droit de possession accordé aux étrangers. Vous vous souviendrez que lorsque 1856, dans un article, parle de l'égalité devant l'impôt et la conscription, il y a un troisième sujet qui est abordé, c'est celui de la propriété. Et là, on reconnaît l'égalité de tous les sujets devant le droit à la propriété, mais il y a un petit rajout, celui des étrangers, le droit des étrangers étrangers à acquérir des biens immeubles dans l'Empire ottoman. Et là aussi, on voit que c'est le rêve, en quelque sorte, de Barachin depuis 1838 qui est réalisé, même si, de fait, ce n'est que un peu plus tard que la législation permettra aux étrangers d'acquérir des biens immeubles dans l'Empire ottoman. Donc il y a quand même une certaine ironie à voir cet illuminé des années 1830, Barachin, qui est mort en 54 ou en 55, donc il n'a pas vu la consécration en quelque sorte de ses rêves, mais 1856, le décret des Tanzimat reprend, je dirais mot pour mot, pratiquement les principes qui avaient été énoncés par cet individu en 1841. Donc, ce qui prouve encore une fois que c'est un texte qui va tout à fait dans le sens des désirs, des projets, des ambitions de l'Occident concernant un empire que l'on juge dorénavant incapable de se gérer lui-même et que l'on doit mettre sous tutelle afin d'en assurer la survie. Les conséquences de 1856, j'en ai déjà évoqué quelques-unes. Je vous ai dit que la pilule passait assez mal. C'était une pilule assez dure à avaler. Mustapha Reshid Pacha lui-même avait exprimé des doutes, même plus que des doutes en 58 au sujet de l'opportunité vraiment de céder de tels avantages à l'Occident. Et l'on sait que dans la population, il y a une réaction. Les braves musulmans qui écoutent leur mollah leur raconter que désormais il ne faut pas appeler les gaours des gaours, ces musulmans parfois s'insurgent contre ce qu'ils considèrent être une atteinte à leurs privilèges, à leur statut. Et il y a aussi des populations non musulmanes qui s'insurgent contre la non-application de certains de ces principes, puisque c'est bien joli, bien sûr, de dénoncer tous ces principes dans un décret. L'application de ces principes est une autre affaire qui est extrêmement difficile à réaliser dans les conditions contemporaines de l'Empire. Donc, il y a dans les années, vers la fin des années 1850, un mécontentement que l'on sent très fortement au sein de la population, notamment de la population musulmane. D'ailleurs, il y a en 58-59 un complot qui est ourdi contre la personne d'Abdulmejid. Abdulmejid devient de plus en plus impopulaire parce qu'il est associé à ses concessions et il devient de plus en plus diaour lui-même aux yeux de la population musulmane. Et il y a même un comité secret qui va tenter, qui va essayer de comploter contre lui et d'organiser un attentat, un régicide contre Abdulmejid. Le projet échouera, mais c'est un projet très intéressant. C'est un phénomène, un événement extrêmement intéressant qui a d'ailleurs été étudié dans le détail par Burak Onaran dans un ouvrage où il parle de cette histoire, de ce complot contre Abdulmejid. Cela étant dit, si l'on se reporte aux deux derniers articles du décret, c'est-à-dire celui de la transformation économique et financière de l'Empire, on va voir que il y aura des tentatives dans cette direction. Certaines seront plus heureuses que d'autres. Je crois que c'est une caractéristique typique de la modernisation ottomane, de voir des hauts et des bas, des projets qui sont mort-nés, certains qui sont extrêmement éphémères, et d'autres qui finissent par s'ancrer dans la société ou dans l'économie et réussissent plus ou moins bien à atteindre leurs objectifs. Alors, parmi les projets, je ne dirais pas mort-nés, mais que l'on qualifierait difficilement de performants, les chemins de fer. Les chemins de fer, encore une fois, j'aurai recours à l'art de Laurent-Joseph Hart, ce graveur de Bruxelles qui avait en quelque sorte produit une histoire médaillée du règne d'Abdulmejid. Il produira aussi une médaille qui n'est pas nommée, donc on ne sait pas exactement à quelle occasion elle a été frappée. C'est une médaille qui, bien sûr, parle de chemin de fer. On y voit une locomotive et le texte, la devise de la médaille parle justement de ce que l'on attend des chemins de fer. Elle unit les peuples, n'est-ce pas? C'est donc l'idée que le progrès, que la modernité, que les moyens de communication modernes vont contribuer à la consolidation de l'Empire. Ce n'est que en 1860 que le premier projet de chemin de fer verra le jour, c'est le chemin de fer de Izmir-Aydın, une distance assez modeste, qui sera suivi en 1865 par le chemin de fer, encore une fois, d'Izmir à Kasaba. Kasaba, qui à l'époque était le nom que l'on donnait à une bourgade qui aujourd'hui est appelée Turgutlu en turc. Donc deux projets de chemin de fer en 10 ans, en 15 ans, si l'on compte à partir de la promulgation de l'édit de 1856, ça n'est pas beaucoup. Ça n'est pas beaucoup, et en plus, la nature de ces projets en dit long sur ce que l'on attendait de ces projets de chemin de fer. C'était des projets non pas de l'État, mais des projets privés, des projets de capitaux étrangers, donc exactement le genre d'investissement que le décret de 1856 appelait de ses voeux. Mais ce sont des lignes qui n'ont pas vraiment de fonction directement liée à la gestion de la politique ottomane. Izmir, pourquoi? Parce que Izmir, c'est un port d'exportation, c'est un des plus grands ports de l'Empire ottoman, et Aydın et Kasaba, c'est le hinterland, c'est l'arrière-pays d'Izmir, c'est la région dans laquelle on produit où l'on produit ce qui va être exporté vers l'Occident. Et par conséquent, ces projets de chemin de fer ont une vision extrêmement ciblée, extrêmement focalisée de leur objectif, c'est de servir la pénétration du marché ottoman, notamment pour ce qui est du transport des marchandises de l'arrière-pays vers le port d'exportation principal de l'Empire. Donc la population ottomane n'y gagne pas vraiment, si ce n'est justement cette portion de la population qui arrivera à s'intégrer avec l'économie occidentale par l'agriculture, par la commercialisation de l'agriculture, et qui par conséquent constituera une petite bourgeoisie non pas industrielle mais commerciale, de type capitaliste mais très localisée et souvent dominée par des intérêts occidentaux. C'est eux que sert ce projet, que servent ces deux projets, et non pas vraiment l'État. De même, le télégraphe est une nouveauté qui sera introduite au moment justement de la guerre de Crimée en 1855 et qui fait partie un peu de cette amélioration des voies de communication qui était citée dans le décret des réformes. Et la première ligne est établie entre la Crimée justement et le port de Varna en Bulgarie, et de là à Edirne, même pas à Istanbul. Ce n'est que dans les années qui suivent que Istanbul sera relié à cette première ligne. Donc encore une fois, c'est une ligne utile, me direz-vous, mais c'est une ligne dont l'existence est due au contexte, aux conditions, aux circonstances de la guerre de Crimée, qui par conséquent ne sert pas directement les priorités de l'Empire. C'est en 1859 qu'une seconde ligne sera établie, et cette fois-ci d'Istanbul jusqu'à Çanakkale, les Dardanelles, Et de là, elle sera étendue dans les années qui suivent jusqu'à Izmir en 65. Donc c'est vraiment très peu. Ce qui est décevant, si vous voulez, dans le projet, l'aspect économique du projet de 1856, c'est que les investissements resteront très limités et qu'ils seront tellement ciblés qu'ils n'auront pas forcément de retombées positives sur la majorité de la population. Alors, bien sûr, il y a un investissement qui m'est particulièrement cher, puisque j'ai énormément travaillé là-dessus, c'est la Banque impériale ottomane, ou disons, en 56, la Banque ottomane. Elle est fondée en février 1856. Donc on voit à quel point il y a synchronicité entre la promulgation de ce décret et l'espoir qui naît dans les places financières occidentales de pouvoir enfin pénétrer ce marché ottoman qui jusque-là n'était pas forcément impénétrable, mais il manquait de ressources, il manquait des instruments nécessaires pour une pénétration efficace et par conséquent une exploitation performante de son potentiel. À chaque fois, il y avait des obstacles locaux, les associations de marchands locaux, les corporations ou la législation, l'existence de monopoles, de fermes, des choses que depuis 1838, l'Empire ottoman essaye, sous la pression du libéralisme britannique, essaye d'abolir, mais qui résistent parce qu'elles sont profondément ancrées dans la tradition politique et dans les équilibres économiques et sociaux de l'Empire. Avec 56 et la décision venant de haut d'appeler les Occidentaux à investir dans l'Empire ottoman, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se lancer dans ce genre d'aventure, et c'est notamment le cas d'un petit groupe de banquiers à Londres, de la SETI à Londres, qui vont fonder en 1856 la Banque ottomane. Et la Banque ottomane, contrairement au chemin de fer qui sont un peu lents à démarrer, va avoir beaucoup de succès assez rapidement parce qu'il n'y a pas vraiment de banque locale, il y a une banque de Constantinople, mais le marché est dominé par des acteurs locaux qui sont plutôt des usuriers que des banquiers qui travaillent avec des taux d'intérêt extrêmement élevés et qui par conséquent se retrouvent tout d'un coup avec une institution qui, avec un capital britannique assez considérable, va remettre en question leur domination du marché. Et par conséquent, du moins dans le contexte de quelques villes, puisque la Banque ottomane va s'installer à Bucarest, à Istanbul, à Izmir et à Beyrouth, donc c'est un début assez modeste, et encore une fois, on voit bien que ce sont des villes qui sont déjà assez commercialisés, assez développés, et surtout qui ont pignon sur rue, c'est-à-dire qui ont un contact direct avec l'arrière-pays ottoman, et qui par conséquent comportent déjà une bourgeoisie d'affaires, une bourgeoisie commerciale qui est susceptible de s'intéresser aux activités d'une banque, à des activités un peu plus institutionnalisé, un peu plus stable que celle des banquiers locaux. Et d'ailleurs, ce n'est pas que des particuliers, c'est l'État lui-même qui va profiter de la présence de cette banque pour commencer à emprunter. L'État a déjà emprunté en 54 et en 55 sur les places occidentales, mais ce sont de gros emprunts dont la plus grande portion a déjà été dépensée en partie à bâtir des palais, mais surtout à financer la guerre de Crimée. Donc il n'y a pas grand-chose à utiliser pour les dépenses au jour le jour d'un empire qui a de la difficulté à gérer un tel territoire. Et par conséquent, la Banque ottomane est une alternative des plus bienvenues à la prédominance des banquiers locaux qui appliquent généralement des taux d'intérêt prohibitifs aux crédits qu'ils offrent au gouvernement. Donc la banque commence à s'implanter dans les milieux bourgeois, si vous voulez, autant occidentaux, les expatriés, les installés, les occidentaux qui vivent dans l'Empire ottoman et qui commencent à commercer de plus en plus et à exporter des produits locaux, mais aussi avec la bourgeoisie locale, souvent non musulmane, mais avec l'État aussi, la banque commence à se faire des amis et à se faire une réputation positive, à tel point que au bout de quelques années, en 1863, alors que l'Empire décide d'aller de l'avant et de se constituer une banque d'État, chose qui n'existait pas jusque-là, une banque d'État, une banque d'émission et une banque d'État, c'est sur la banque ottomane que va se porter le choix des dirigeants occidentaux. Et ils vont, puisque Ali Pacha, Fouad Pacha, ils sont encore là, ce sont eux qui dirigent le système, la sublime porte à cette époque-là, ils vont avoir une réaction qui est tout à fait qui va tout à fait dans le sens du testament politique d'Ali Pacha, c'est-à-dire qu'ils vont demander à la Banque ottomane de s'associer à des capitaux français. C'était une banque privée qui n'avait que des capitaux anglais, de s'associer à des capitaux français afin d'agrandir le capital pour devenir une banque d'État, mais surtout pour diviser en quelque sorte le capital, diviser pour être soumis, c'est le choix des dirigeants ottomans. Ils se disent que si on arrive à diviser le capital, si le capital est divisé entre Londres et Paris, on aura un peu plus de possibilités à jouer des rivalités qui pourraient exister entre les deux parties constituantes de ce capital. Et par conséquent, même si nous dépendrons d'une entreprise qui, après tout, est privée, nous aurons un peu plus de liberté, un peu plus de jeu dans cette situation de domination. Donc, la Banque ottomane est un bon exemple d'une institution qui fait souche, qui prend racine et qui, grâce à sa réussite, va pouvoir agrandir sa perspective, augmenter ses ambitions et devenir une des principales entreprises, une des principales institutions soutenant l'Empire ottoman dans sa quête de progrès et de survie, puisque la plupart des emprunts à partir de 1863, mais même avant ça, en 58, seront gérés par la Banque ottomane en tant qu'agent, en tant qu'intermédiaire entre le gouvernement ottoman et les places financières occidentales. Donc, vous voyez bien qu'il y a un développement économique, il y a des investissements, il y a une forme d'infrastructure qui commence à se mettre en place, mais toutes ces améliorations, toutes ces nouveautés se font sous le signe de la domination, sous le signe d'une emprise occidentale sur le marché local et sur la politique locale. Je vous le disais, le gros, ou du moins une partie très considérable des emprunts va être dépensé à bâtir des palais, puisque l'Empire est convaincu que l'image de marque, la vitrine en quelque sorte, est aussi extrêmement importante. Et le palais de Dolmabahçe, cette tarte à la crème que l'on voit encore sur le Bosphore, va être bâtie en grande partie avec des crédits empruntés soit en Europe, soit sur la place locale. Et ce sont des millions qui seront dépensés pour une fantaisie à l'occidentale, à la franca, dont on connaît bien le faste et le côté un peu kitsch. Je vous le disais, Ali et Fouad Pacha, Ali à gauche, Fouad à droite, sont les dirigeants de l'époque. Parce que les Tanzimats, c'est une bureaucratisation de l'Empire. Depuis 1839, puisque il y avait déjà en 39 un désir des dignitaires de se libérer de l'emprise du sultan, mais ils avaient beaucoup souffert sous Mahmoud II, et là ils avaient réussi par le décret des Tanzimats à s'émanciper en quelque sorte et se libérer des risques très réels que représentait l'arbitraire d'un sultan extrêmement autoritaire, voire un autocrate. Mejid, Abdulmejid, son fils, sera beaucoup plus modeste, et par conséquent, il sera possible à la bureaucratie ottomane, aux hommes d'État, de se constituer en une sorte de classe dirigeante qui déterminera en grande partie les conditions dans lesquelles la transformation de l'Empire devra avoir lieu. Parmi ceux-ci, Reshid Pacha, bien sûr, est une figure prominente, c'est lui qui, jusque dans les années 1850, va diriger l'Empire en tant que grand vizir, ministre des Affaires étrangères, etc. Mais ses disciples, Ali et Fouad Pacha, finiront par l'emporter sur sa propre puissance et devenir une sorte de duumvirat, un peu à la Poutine et Medvedev, puisqu'ils vont alterner entre le poste du grand vizirat et du ministère des Affaires étrangères, l'un après l'autre, et par conséquent se constituer en une sorte d'élite au sommet de la bureaucratie ottomane. Et cette bureaucratie, ce qui la symbolise le mieux, c'est la Sublime Porte, dont on voit ici une représentation dans une des premières revues illustrées de l'Empire ottoman, donc un dessin un peu naïf, mais c'est le Bab Ali, la Sublime Porte, c'est-à-dire les bureaux du grand vizirat qui sont au sommet de la hiérarchie étatique et qui dirige en grande partie l'Empire ottoman. Et c'est l'occasion justement de s'interroger sur l'application ou non de certains des principes énoncés dans le décret des réformes. Vous vous souviendrez que l'un des principes de l'égalité accordée aux non-musulmans, c'était le recrutement dans la fonction publique. Le fait que ce qui était jusque-là une sorte de prérogative, un privilège réservé uniquement aux musulmans, serait désormais ouvert aux non-musulmans. Évidemment, nous avons dans les périodes qui antérieures bien des cas de non-musulmans qui dirigent certains départements de l'État, notamment des départements qui sont entre guillemets techniques, tels la monnaie, tels les poudrières de l'Empire. Vous avez beaucoup d'Arméniens, par exemple, qui auront des fonctions extrêmement importantes et qui seront reconnus en tant que tel par Mahmoud II ou par Abdulmejid au début de son règne en tant que justement directeur général des poudrières ou en tant que directeur de la monnaie, les Dusianes, les Balianes à la tête de l'architecture impériale, c'est-à-dire les architectes du palais, ceux qui vont bâtir le palais de Dolmabahçe entre autres. Donc, ce n'est pas que la fonction ait été entièrement interdite aux non-musulmans, mais ce sont des non-musulmans qui sont choisis, triés sur le volet, et qui, généralement, sont amenés à remplir des fonctions qui sont directement liées à des savoirs, à des techniques, à des connaissances, à une science qui est apparemment absente chez les musulmans. Donc, ce sont des exceptions, même si elles existent. Mais en revanche, ce que 56 promet, c'est que le gouvernement va désormais, l'État va désormais recruter des non-musulmans. Alors, pour tester cela, nous avons les travaux de Carter Findlay, qui, dans les années 80, a travaillé sur la fonction publique dans l'Empire ottoman, sur les bureaucrates, et en particulier sur le ministère des Affaires étrangères, dont il a étudié les dossiers pour essayer de retracer un profil du diplomate ottoman ou du fonctionnaire ottoman au ministère des Affaires étrangères. Et parmi les aspects qu'il a étudiés, il y a celui de l'admission ou non, du recrutement ou non des non-musulmans. Et voilà donc un graphe qui vous donne une vision assez synoptique de la situation. Vous voyez donc en vert la proportion des musulmans au sein de du ministère des Affaires étrangères, et en rouge vous voyez la proportion des non-musulmans, et au milieu vous voyez en rouge, en pointillé rouge, vous voyez la représentation démographique des non-musulmans dans la population, dans le total de la population de l'Empire ottoman, et en pointillé vert, la proportion des musulmans au sein de la population de l'Empire. Donc, de 1850 à 1915. Alors, on ne va pas trop se soucier de ce qui se passe après 1880, puisque c'est pour l'année prochaine, mais on voit tout de suite que la proportion des non-musulmans est non négligeable. Alors bien sûr, elle n'est pas aussi importante que leur représentation au sein de la population, mais c'est une représentation qui est en croissance. On passe de 25% environ en 1850 à 35%, voire 40% en 1875. Alors c'est quand même un exemple concret, une illustration concrète du fait que oui, il y a une transformation de la fonction publique, et par conséquent, il y a une correspondance entre les vœux pieux ou entre les principes énoncés dans le décret des réformes et l'application de ces principes dans la fonction publique. Alors évidemment, le ministère des Affaires étrangères est un des ministères qui est les plus ouverts aux non-musulmans, pour des raisons évidentes de savoir, encore une fois, de capacité linguistique, de talent, etc. Et par conséquent, c'est quelque chose dont on retrouvera des exemples dans les périodes antérieures. Il y avait déjà dans la diplomatie ottomane des non-musulmans en grand nombre avant le décret des réformes. Et par conséquent, il y a certains départements de l'État, par exemple l'armée, où ce genre de transformation n'aura pas lieu. On peut imaginer bien des ministères, le ministère des fondations pieuses, etc., où les non-musulmans seront de toute façon systématiquement exclus. Mais même si nous n'avons pas des chiffres précis et des statistiques aussi fiables que celles de Carter Findlay pour le ministère des Affaires étrangères, on sait que dans certains ministères, les travaux publics, l'éducation, etc., il y a de plus en plus de non-musulmans qui sont admis dans la fonction publique. Et par conséquent, il y a un ottomanisme, il y a la naissance d'un désir sincère de la part de l'Empire ottoman de créer des conditions favorables à une sorte de communion entre les diverses nations qui forment la nation ottomane. Si l'on regarde le détail des non-musulmans au ministère des Affaires étrangères, encore une fois fondée sur les statistiques de Carter Findlay, on voit que les diverses communautés ont des destinées assez différentes. On voit comment, par exemple, les Arméniens et les Grecs montent en flèche à peu près au même moment, mais les Grecs sont rapidement dépassés par les Arméniens, qui constituent en gros 20% de la des fonctionnaires non musulmans du ministère des Affaires étrangères. Pourquoi? Parce que il y a des affinités culturelles, linguistiques. La plupart des Arméniens parlent le turc, tandis que ce n'est pas forcément vrai des non musulmans, des Grecs, ce qui rend leur intégration beaucoup plus facile. Si l'on veut un symbole de l'ottomanisme, je retomberai sur ma fameuse banque ottomane pour vous montrer cette banknote qui a été émise en 1870 et qui est un fruit assez typique de l'ottomanisme en tant que politique d'État, puisqu'on y voit la juxtaposition de cinq langues, le turc au milieu, le français un peu partout, et à gauche, à droite, et le français n'est pas une langue de l'État, mais c'est la lingua franca de l'État qui s'intègre avec la modernité, on se modernise à l'heure française. À gauche, en haut, le coin supérieur gauche, c'est de l'arménien. À droite, en haut, c'est de l'arabe. À droite, en bas, c'est du grec. Donc, on voit que la banque de l'État, même si elle est privée, la banque de l'État essaye de donner une consistance, une consistance visuelle à cet ottomanisme en adoptant la multiplicité des langues dans un des objets les plus officiels qu'elle est appelée à émettre, c'est-à-dire les banknotes. Je terminerai en évoquant quelque chose que je développerai au cours des prochaines leçons, la question de la pluralité. Alors on a regardé l'État, on a vu comment l'État, du moins en principe, jouait le jeu de la pluralité. On a vu comment dans certains départements, dans certains contextes, cette diversité était mise en application. Mais qu'en est-il de la population elle-même? C'est-à-dire cette pluralité, cette coexistence des races, des cultures, des religions, etc. Comment est-elle transformée par cette modernité, par l'occidentalisation dans laquelle s'est engagé l'Empire ottoman à partir des années 40, mais en particulier en 1856. Pour cela, j'utilise toujours une réclame, comme on disait à l'époque, une publicité parue dans le journal de Constantinople. Déjà, le journal de Constantinople, ça fait partie un peu de cet attirail de nouveaux instruments occidentalisés. C'est un quotidien en français qui est publié à Constantinople même. Donc c'est une publicité en 1848, et vous voyez, c'est un texte quand même qui vaut le détour. On propose des chapeaux pour dames, des manteaux pour dames, un assortiment de gravates, s'il vous plaît, pour hommes, au grand bazar parisien. Alors déjà, vous avez un sous-texte qui, à mon avis, est très important, c'est la référence à Paris. Paris, la France. Il s'agit de mode, bien sûr, mais déjà la langue elle-même, le français, c'est une référence directe à la France, à l'influence française et à ce que la France représente en matière de modernité, de civilisation aux yeux du public occidental, du public ottoman, des élites, mais aussi des classes moyennes que l'on essaye d'aguicher par cette publicité. Vous avez un autre sous-texte qui est celui non pas de l'idéologie dominante, mais celui de la réalité contemporaine, de la réalité sur le terrain. Et là, il faut lire les parties de cette publicité qui s'adressent justement aux consommateurs visés. Alors, étrenne pour messieurs les Grecs, Arméniens, etc. Alors, le etc., j'adore cet etc. parce qu'il est d'une arrogance mais aussi d'un vague qui est dur à expliquer. Mais en gros, cela vous donne une idée très précise de ce qui est visé. C'est justement les populations non musulmanes, les populations chrétiennes, en fait, de l'Empire, qui sont visées les premières par cet épanouissement de la modernité dans la capitale de l'Empire ottoman. Etc. Ça n'est même pas les juifs, puisqu'on parle du nouvel an 1848 ancien style, on parle de la fête des rois, du nouveau style. Toutes les références, cette publicité a été publiée le 6 janvier 1848, donc c'est la fête des rois, c'est l'épiphanie. Le texte est complètement chrétien, c'est-à-dire le contexte est complètement chrétien. Donc, dans ces etc., on comprend bien que les Turcs, les musulmans sont complètement exclus, ça n'est pas eux qui sont visés, mais les juifs aussi, puisqu'il faudra quand même quelques temps pour que les juifs soient amenés à s'occidentaliser par le biais de l'alliance israélite universelle, par l'adoption du français, etc. Et il faut encore quelques années pour qu'ils atteignent le niveau requis pour être cités au même titre que les Grecs et les Arméniens. Voilà donc un contexte qui commence à se préciser. Un contexte qui se situe en plein dans l'Occident. Un Occident qui est très francisé, un Occident qui est très parisien. Bien sûr, il y a aussi des références à Londres, il y en aura par la suite à Vienne et à Berlin, mais en gros, c'est l'Occident qui détermine les normes de cette modernité. Et à l'échelle locale, ceux qui sont visés, ce sont les chrétiens. Et les chrétiens, ce sont les Grecs, les Arméniens et bien sûr les étrangers. Les étrangers, ceux que l'on appelle parfois des Levantins parce qu'ils sont implantés en Orient depuis longue date, mais c'est un secteur de la population qui est très précisément ciblé. Et par conséquent, c'est un cosmopolitisme, si l'on veut vraiment utiliser le terme de cosmopolitisme, et je reviendrai là-dessus parce que c'est un terme extrêmement problématique, c'est un cosmopolitisme de seconde zone. Un cosmopolitisme presque colonial, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer la publication de cette publicité dans un quotidien publié à Alger, ce serait probablement un format et un texte extrêmement similaire que l'on rencontrerait dans ces conditions-là. Donc la pluralité, je ne parle pas de pluralisme, mais la pluralité dans l'Empire ottoman, surtout après 1856, elle va se conjuguer dans un contexte qui est fortement déterminé par des relations de dépendance et de domination où l'Occident détermine la norme de ce qui et moderne, et ce qui doit circuler dans les cercles qui veulent s'intégrer à cette modernité. Nous reviendrons sur tout cela la semaine prochaine, lorsque nous parlerons des dernières illusions, les années 1860, et particulièrement la fin des années 1860. Jusque-là, je vous souhaite tout le meilleur, et n'oubliez pas de porter vos masques. À très bientôt, merci.